Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue, la Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Tout de suite, nous sommes ensemble pour un point de l'actualité. Le président soudanais Omar al-Béchi crie victoire sur la Cour pénale internationale après la suspension par la procureure de l'enquête sur les crimes de guerre au Darfour. Le président Bachi a déclaré ce samedi à Khartoum que le peuple soudanais a vaincu la CPI en refusant de remettre les responsables soudanais à ce qu'il appelle les tribunaux coloniaux. Il a dit que le tribunal a admis qu'il a échoué dans ses efforts contre lui. Fatou Bensouda, la procureure en chef de la CPI, a déclaré vendredi qu'elle n'avait d'autre choix que de mettre en veilleuse l'enquête dans l'affaire Bachi pour consacrer les énergies à d'autres cas plus urgents. Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté ce matin à Ouagadougou en hommage à Norbert Zongo, le journaliste burkinabé assassiné il y a 16 ans. L'affaire incarne les dérives les plus graves du régime de Blaise Compaoré, chassé par la rue, vous le savez, le 31 octobre, après 27 ans de règne. Aucune condamnation n'avait été prononcée malgré des années de procédure. Sur le sens de cette manifestation, on écoute Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Zongo.
L'affaire Norbert Zongo n'a pas encore connu son dénouement total. Donc c'est aussi le symbole d'une nouvelle mobilisation, d'une nouvelle détermination pour une lutte définitive pour aboutir à la vérité et à la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Pour nous, il est important déjà que des actions fortes soient engagées et que tous les dossiers qui sont pendants au Burkina Faso connaissent une évolution concrète avec des résultats concrets visibles pour tout le peuple burkinabé.
Prosper Farama, l'un des avocats de la famille Zongo. 26 personnes au moins ont péri dans un naufrage sur le lac Tanganyika dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le bateau transportant des passagers et des marchandises de Kalemie au Katanga vers Uvira, plus au nord dans la province du Sud Kivu, a chaviré d'après l'AFP dans la nuit de jeudi à vendredi. 221 passagers ont pu être sauvés selon Laurent Sumba Kaozi, ministre des Transports de la province du Katanga, qui a indiqué qu'une surcharge est à l'origine de l'accident.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Russie a menacé les États-Unis de représailles si Washington impose de nouvelles sanctions à Moscou sur la crise en Ukraine. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov a dénoncé les décisions inacceptables et les sentiments anti-russes en réaction à l'adoption d'une loi autorisant la livraison d'armes létales à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov va discuter de la question avec le secrétaire d'État américain John Kerry lors de leur rencontre prévue à Rome le lundi. Le Sénat américain a reporté à lundi le vote du projet de budget de plus de 1 000 milliards de dollars devant financer le gouvernement fédéral jusqu'à septembre 2015. Le Sénat devrait adopter un budget provisoire ce samedi pour prolonger temporairement le financement du gouvernement jusqu'à mercredi prochain. La Chambre des représentants a déjà adopté jeudi la nouvelle loi de finances et a adopté une résolution permettant le maintien du fonctionnement du gouvernement et qui donne aussi l'occasion aux législateurs du Sénat des deux chambres de répondre aux préoccupations des républicains conservateurs et des libéraux démocrates. Marche des droits civiques organisée aujourd'hui à Washington par le révérend Al Sharpton. Cette marche a pour but de protester contre les violences policières et l'injustice raciale. L'activiste, animateur de télévision et dirigeant du Réseau national d'action sera rejoint près de la Maison-Blanche par des membres de la famille des quatre jeunes noirs tués par la police ou de la sécurité. Sharpton et les parents de Michael Brown, Eric Garner, Tammy Rice et Trayvon Martin se sont croisés donc à Freedom Plaza pour une marche de plus de 3 km sur Pennsylvania Avenue jusqu'au Capitole, le siège du Congrès américain. La marche va se terminer à l'extérieur du Capitole avec une manifestation appelant à la réforme nationale sur la façon dont la police enquête et la façon dont ils utilisent la force contre les suspects. Et puis un hélicoptère irakien, on en parle plus tard.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs. À partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Et c'est parti pour Carrefour, votre rendez-vous hebdomadaire avec les sciences et la santé sur VOA Afrique. Depuis Washington, Jacques Aristide avec vous, en lieu et place de Camille Gros-Didier. Un coup d'œil sur le fil conducteur. Les pays ravagés par Ebola s'attellent à reconstruire leur système de santé, mais la tâche est herculéenne.
Il faut absolument revoir maintenant et refocaliser sur les patients, la communauté et les services. Parce que c'est là où les choses coincent. Et donc c'est là seulement où on aura la mesure de succès. On pourra répondre aux besoins de santé de la population.
À venir également, la lutte contre le choléra et ce traitement miracle qui sauve des millions de vies et qui peut encore être amélioré. Au Malawi, en revanche, ce sont des maladies liées à l'eau qui guettent les habitants de Blantyre, la capitale, tout simplement parce que les robinets sont à sec. Coup de projecteur aussi sur les vertus additionnelles des mangroves.
Les forêts des mangroves sont des écosystèmes en premier cas très productifs. Ils produisent toutes les matières nécessaires qui sont parties de la chaîne alimentaire, qui soutiennent la pêche, pas seulement la pêche artisanale, mais surtout la pêche commerciale.
Et en fin de magazine, une interrogation. Est-il prudent, voire utile, d'introduire les enfants aux nouvelles technologies dès leur jeune âge ? Plein feu d'emblée sur l'épidémie d'Ebola, les ministres de la Santé de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée ont participé dans la semaine écoulée à une réunion avec des experts internationaux sur les moyens engagés pour reconstruire les systèmes de santé de ces trois pays qui comptent la plupart des 6388 décès occasionnés par Ebola. C'était à Genève, au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les ministres africains, cette reconstruction coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années. En fait, pour le ministre guinéen Rémi Lama, il faudra au minimum 5 ans et 300 millions de dollars à son pays, la Guinée, pour avoir un système de santé fort pour répondre à une éventuelle épidémie. L'ONG Médecins sans frontières est également d'avis que l'épidémie est en train de mettre à rude épreuve des systèmes de santé déjà très faibles et d'aggraver des crises de santé existantes comme le paludisme et la mortalité maternelle. Je vous propose d'écouter Dr Marie-Paul Phillips de MSF.
Oui, la situation des systèmes de santé est assez différente selon l'endroit où on se trouve. Donc, par exemple, le Libéria et le Sierra Leone ont eu vraiment beaucoup de difficultés de garder les services de santé ouverts lorsqu'en Guinée, le système continue à fonctionner, même si c'est au ralenti. Donc, l'Ebola est à la base d'une crise de confiance dans le système de santé. Beaucoup de patients ont peur de fréquenter les services de santé, peur de se faire infecter, et donc ils attendent trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide. Et donc, beaucoup de gens semblent ne pas trouver à temps le chemin vers les services de santé. Également, il y a un problème, en effet, que certains services de santé se sont plus ou moins arrêté de fonctionner. Donc il est pour le moment très difficile pour une femme qui doit accoucher et qui va avoir des complications de trouver un endroit où elle peut se faire soigner et avoir son enfant en toute sécurité. Donc beaucoup des hôpitaux sont fermés et beaucoup du staff médical n'est pas présent. Il y a aussi des médicaments sur place. Le système de distribution est assez perturbé.
L'émergence d'Ebola est-elle alors un reflet de la dégradation des systèmes de santé ?
C'est-à-dire que c'est la réponse à l'épidémie de l'Ebola a été handicapée fortement par l'état pré-Ebola des services de santé. Donc les systèmes de santé ont été sous-financés pendant des années et il y a un manque cruel de personnel de santé, surtout au Libéria, au Sierra Leone. Donc, cette faiblesse, je dirais, des systèmes de santé se fait ressentir au moment où une réponse doit être donnée à une épidémie. C'est le cas pour une épidémie d'Ebola, mais c'est aussi le cas pour une épidémie de rougeole ou de méningite ou de choléra. Donc, il faut mobiliser à ce moment. Et quand il y a peu de réserves, hein, peu de médicaments, peu de personnel disponible, c'est très difficile de réagir de manière efficace.
Mais en même temps, est-ce que cela est dû
au fait que la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été privilégiée tant par les politiques nationales qu'internationales?
Non, je ne pense pas vraiment, parce qu'on pourrait dire que dans les trois pays qui sont maintenant affectés le plus par la crise de l'Ebola, en fait, il y a beaucoup à faire encore dans le VIH. La couverture du traitement n'est pas aussi bien qu'en Afrique australe, par exemple. Et donc, honnêtement, en fait, je pense que même en Afrique australe, ce qu'on a vu, ce qui était très positif, c'est que les systèmes de santé se sont réorganisés en face de ce nouveau défi. Maintenant, je pense que c'est le tour à l'Afrique de l'Ouest de se réorganiser en face du défi de l'Ebola. Je pense que c'est vraiment un problème fondamental que les systèmes de santé n'ont pas reçu les moyens pour fonctionner correctement. Et donc, c'est aussi bien en termes de ressources domestiques que de l'intérêt des bailleurs de fonds. Le niveau de financement pour la santé a été vraiment en dessous de ce qui est accepté comme un niveau minimum pour bien fonctionner.
Quoi faire maintenant pour pallier ces difficultés?
Donc, ce qui est très important, en premier lieu, de vraiment s'attaquer au problème de l'épidémie de Ebola, parce que c'est ça qui donne un effet extrêmement négatif sur le système de santé. Et donc, il faut qu'on puisse vraiment arriver à une fin de l'épidémie. Le système de santé va être demandé de faire des efforts considérables et peut-être même plus encore en fin d'épidémie. Ça devient plus difficile pour trouver justement le dernier cas et vraiment d'avoir le dernier contact des cas. Donc le système de santé doit être sur le court terme tout à fait supporté et appuyé pour faire face à l'Ebola. L'autre chose, c'est que il y a d'autres problèmes de santé qui ne s'arrêtent pas. La malaria, il y a environ 20 000 morts par an dans la région. Les femmes enceintes continuent à avoir besoin de leurs enfants en toute sécurité. Donc là aussi, il faut absolument faire tout pour que le système de santé puisse redémarrer en toute sécurité avec suffisamment de protection pour les travailleurs de santé et pour les patients. Cela va inclure aussi un système de triage pour les patients Ebola, mais aussi une prise en charge des patients qui ne sont pas atteints de l'Ebola. Quand on parle de renforcement du système de santé, on l'a fait pendant déjà plusieurs années. Il faut absolument revoir maintenant et refocaliser sur les patients, la communauté et les services, parce que c'est là où les choses coincent. Et donc, c'est là seulement où on aura la mesure de succès. Est-ce qu'on pourra répondre aux besoins de santé de la population?
Docteur Marie-Paul Philips de Médecins sans frontières était jointe en Belgique.
Le choléra est une infection diarrhéique aiguë qui peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée. Une thérapie de réhydratation, de l'eau mélangée avec du sel et du sucre, peut sauver des vies. Mais comme le rapporte Jessica Berman de la VOA, ce traitement de référence peut être amélioré. Son reportage est restitué par Claire Morin-Gibourg.
La bactérie qui provoque le choléra, Vibrio cholerae, aime le glucose ou le sucre qui fait partie de la solution de réhydratation orale. Alors que le glucose aide le corps à absorber les sels essentiels, il aide aussi les microbes à produire plus de toxines. Mais les chercheurs de l'Institut fédéral suisse de technologie à Lausanne disent que l'utilisation d'amidon de riz au lieu du sucre avec les sels de réhydratation pourrait réduire la toxicité bactérienne de près de 75%. La thérapie de réhydratation visant à remplacer l'énorme quantité de fluide qui est perdue par la diarrhée et les vomissements a réduit le taux de mortalité du choléra à moins de 1%. Mais la microbiologiste Mélanie Blokesch dit que remplacer le glucose par de l'amidon pourrait améliorer le traitement.
So we're not saying stop this treatment because it works well,
Nous ne disons pas d'arrêter ce traitement car il fonctionne bien, mais il pourrait être amélioré, ou du moins la transmission serait plus rare, car les symptômes seraient moins graves. Par conséquent, vous aurez moins de volume de sel et moins de gens infectés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le choléra infecte 3 à 5 millions de personnes chaque année, et la déshydratation sévère que la bactérie provoque conduit à environ 120 000 décès. En se basant sur les données de l'épidémie de choléra en Haïti, en 2010, les chercheurs ont déterminé que l'apport d'une solution à base d'amidon de riz aurait pu réduire le nombre de cas de 30%. Cela aurait signifié 375 000 cas au cours des 14 premiers mois de l'épidémie, au lieu de plus d'un demi-million de cas enregistrés alors sur l'île. Si vous utilisez une solution de réhydratation orale à base de riz à la place de la solution de réhydratation orale à base de glucose standard, il a été observé dans les études sur le terrain que l'on réduit de 10% le volume des selles et la durée de la maladie. L'experte souligne par ailleurs dans la revue PLOS, spécialisée sur les maladies tropicales négligées, que les responsables de la santé publique devraient envisager de passer à une solution à base d'amidon de riz, en particulier dans les zones endémiques de choléra.
Au Malawi, les habitants de Blantyre ont généralement accès à l'eau du robinet. Mais depuis ces 5 derniers mois, les robinets sont à sec, contraignant les résidents à avoir recours à de l'eau provenant de sources non protégées comme les rivières et les puits, en attendant la fin des travaux en cours dans la principale station de pompage de la ville. Comme nous allons l'entendre, le risque de contracter des maladies liées à l'eau, les maladies hydriques autrement dit, s'est accru dans la capitale commerciale. Lionel Gaïma.
À Blantyre et dans les régions avoisinantes, la colère monte. Cela fait 5 jours maintenant que les habitants n'ont pas eu droit à l'eau du robinet. Les femmes qui, de par la tradition au Malawi, sont responsables des tâches ménagères, se plaignent des risques auxquels elles sont confrontées lorsqu'elles sont obligées à aller puiser de l'eau des rivières loin des zones résidentielles. Elles confient à la VOA que les trajets à travers les sentiers broussailleux peuvent être périlleux. Rhoda Milandi est femme au foyer, mère de 3 enfants.
Nous nous réveillons chaque jour à 2h du matin, parfois à 1h pour aller chercher de l'eau. Mais la route est parsemée de dangers, vous voyez, il peut arriver que nous croisions des sorcières ou des serpents sur le chemin. Nous avons même été poursuivis par des hyènes.
Pour alléger le fardeau du transport d'eau à la maison, les femmes préfèrent se laver dans la rivière. Mais Rhoda Milandi affirme que de jeunes se cachent dans la brousse pour les épier.
Ces jeunes viennent nous voir nus. C'est très embarrassant. Nous nous sommes plaintes aux chefs de village. Certains d'entre eux ont été punis. Mais vous savez, d'autres continuent à se cacher dans les arbres pour regarder les femmes âgées, comme nous, prendre un bain.
Ce problème d'eau a également affecté la prestation des services de santé. Il y a 3 semaines, les autorités de l'hôpital Queen Elizabeth Central à Blantyre ont confirmé avoir suspendu les opérations chirurgicales en raison de la pénurie d'eau. Des organisations humanitaires mettent en garde contre les risques d'apparition des maladies d'origine hydrique, en particulier dans les zones densément peuplées, si la situation reste inchangée. Les responsables de l'Office des eaux de Blantyre attribuent le problème en grande partie à un projet en cours financé par l'Union européenne et qui vise à installer des nouvelles machines à Walker's Ferry, la principale station de pompage. Le projet devrait augmenter la capacité de production d'eau de 105 000 m3 par jour au lieu de 78 000 m3 pour le moment. Priscilla Mateyu est la porte-parole de l'Office des eaux.
Le projet doit être complété en janvier, mais les nouvelles machines et tout le reste entreront pleinement en opération en mars 2015. Et nous allons ainsi accroître notre capacité de production d'eau, du moins c'est ce que nous espérons.
L'Association des consommateurs du Malawi avait prévu de manifester devant l'Office des eaux de Blantyre jusqu'au retour à la normale de l'approvisionnement en eau, mais l'organisme en a dissuadé l'ONG en promettant de distribuer de l'eau aux résidents grâce à des réservoirs d'eau mobile. Les dirigeants de l'Association des consommateurs ont lancé un ultimatum de 2 semaines à l'Office des eaux pour honorer ses engagements.
L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades, ne touchons pas nos mourants.
Tout le monde est en danger, les jeunes et les anciens. Il faut agir pour nos familles.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour, votre magazine consacré aux sciences et à la santé sur VOA Afrique. Jacques Aristide toujours avec vous, merci de nous suivre. Je vous propose maintenant un extrait de la chanson Africa Stop Ebola, interprétée par Tiken Jafakoli, Amadou et Mariam, Salif Keita, Oumou Sangaré et tant d'autres artistes du continent africain qui ont ajouté leur voix à la campagne contre l'épidémie.
Les docteurs vont vous aider, je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Et confiance au docteur.
Ebola, Ebola.
Ebola, ce n'est pas bon. Allez voir le médecin.
Jacques Aristide, de retour avec vous, tout à fait autre chose maintenant. Deux ONG de protection de l'environnement, le Nature Conservancy et Wetlands International, viennent de publier un guide de gestion des mangroves. Il faut dire que ces arbustes aux longues racines qui plongent dans la mer jouent un rôle clé dans la protection des côtes en évitant leur érosion. Le guide qui a été présenté lors d'un symposium organisé par la Zoological Society à Londres offre une analyse détaillée des vertus des mangroves, car elles abritent également de multitudes d'oiseaux et autres animaux. Pour en savoir davantage, Camille Gros-Didier s'est entretenue avec Maria Stock, une responsable de Wetlands International.
Bon, les mangroves sont si importantes pour maintenir le stock de poissons et les ressources halieutiques grâce à deux raisons principales. La première, c'est qu'ils fournissent de la nourriture pour les autres poissons, mais aussi la deuxième raison, c'est aussi qu'ils sont très importants pour donner un abri pour les autres poissons. Donc, les forêts des mangroves sont des écosystèmes, en premier cas, très productifs. Ils produisent toutes les matières nécessaires qui sont parties de la chaîne alimentaire, qui soutiennent la pêche, pas seulement la pêche artisanale, mais surtout la pêche commerciale. Donc, des matériaux, par exemple, qui sont produits par les mangroves, comme des feuilles et des bois qui proviennent directement de mangroves, c'est des composants en matière plus fine qui sont utilisés par les autres animaux comme ressources alimentaires. Donc, tous ces animaux aussi transformaient les feuilles et les matières qui viennent de mangroves directement et en fragments qui sont plus faciles à manger pour des autres animaux. Et comme ça, ils maintenaient tous les gènes alimentaires des poissons locaux, mais aussi des poissons qui sont offshore, qui sont très importants pour la pêche commerciale. Et l'autre raison très importante, c'est que les mangroves sont aussi très importantes comme une sorte d'abri pour toutes les espèces marines. Ils fonctionnent un peu comme une crèche, comme une grosse crèche, comme une pépinière. Et voilà, les poissons-là sont protégés et les petits crevets et toutes les petites espèces.
Les mangroves jouent également un rôle dans la protection des côtes. Comment ?
Les mangroves jouent un rôle très important dans la protection des côtes, surtout dans la protection du littoral, parce qu'ils sont une sorte de défense de la côte. Elles aident surtout à réduire le risque des catastrophes et surtout de l'érosion côtière. Et les mangroves sont surtout un système naturel de défense terrestre qui sont par exemple capables de défendre les côtes contre le raz de mer, les orages, les tempêtes et même les tsunamis, par exemple. Mais la combinaison de digues et de mangroves aide beaucoup à réduire, par exemple, l'énergie des vagues. Mais c'est vrai que dans la protection de la côte et du littoral, les mangroves même, les forêts de mangroves même, jouent un rôle très important. Par exemple, pour donner un exemple, il y a des études qui sont montrées que l'énergie des vagues peut être réduite entre 13 et 66% en passant à travers de 100 mètres de racines de mangroves. Donc, le rôle de mangroves en diminuant l'énergie des vagues, c'est très important.
On a détruit beaucoup de mangroves en Asie pour faire des exploitations de crevettes notamment. Est-ce qu'on ne peut pas allier la pisciculture avec les mangroves?
Ça, c'est aussi la position de Wetlands International. Wetlands International travaille beaucoup pour la promotion d'une production durable des aquacultures dans des pays producteurs de ressources qui viennent de la pisciculture et de l'aquaculture. Et voilà, c'est vrai qu'en Asie, beaucoup de forêts mangroves sont détruites pour construire des fermes de crevettes en particulier. Mais il y a deux solutions possibles. On travaille pour la promotion de la protection des mangroves qui sont déjà existantes, qui ne sont pas détruites non plus. Donc, il faut le maintenir pour maintenir aussi les ressources halieutiques. Mais ici, c'est très important aussi de récupérer et restaurer les piscines qui sont déjà abandonnées. Donc, la combination de protection des forêts de mangroves qui sont déjà là avec la récupération et restauration des piscines qui sont abandonnées, c'est fondamental pour soutenir les ressources en l'avenir.
Nous écoutions Maria Stock, une responsable de Wetlands International. Et avant de clore Carrefour, cette question, est-il prudent ou même utile d'introduire les enfants aux nouvelles technologies dès leur jeune âge? Scientifiques et éducateurs aux États-Unis et en Chine répondent sans hésitation par l'affirmative. Quand l'approche est correcte, disent-ils, les enfants apprennent par la technologie à ne pas être intimidés par la pensée abstraite. Chérubin Dorcy l'explique.
Avant même d'apprendre à lire et à écrire, les enfants peuvent manipuler des images. Les tablettes aux écrans tactiles offrent la meilleure option pour les exposer à des commandes simples. Et c'est précisément l'essence de la programmation informatique, nous dit Michel Resnick, cofondateur d'un programme d'apprentissage de code dénommé Scratch Junior.
Each block tells the characters what to do.
Il explique comment chaque bloc instruit le personnage sur l'action à entreprendre. Mettez les blocs ensemble et vous avez un programme informatique. Dans une présentation vidéo, il montre comment chaque bloc peut remplir une différente fonction, par exemple porter un chat, en image bien sûr, à se ranger à droite ou à gauche, arranger tout cela de manière séquentielle. Voilà en quoi consistent les codes, dit Resnick. Pendant combien de temps un enfant devrait-il ou devrait-elle être exposé à la technologie moderne? Cela revient bien sûr aux parents. La réalité, c'est que personne ne peut s'y soustraire complètement, comme l'explique Sandra Calvert, qui dirige un centre numérique pour enfants à l'université Georgetown de Washington.
We live in the digital age, and just as it's a worry that there may be too much screen time.
Nous vivons, dit-elle, à l'ère du numérique. De même que passer trop de temps devant un écran pose problème, nous sommes également préoccupés de voir nos enfants en retard par rapport aux autres s'ils ne savent pas comment se servir des outils technologiques qui domineront les carrières, les emplois et notre succès en tant que nation au XXIe siècle, ajoute Sandra Calvert. Cap sur Pékin. Des enfants ayant entre 4 et 15 ans d'âge utilisent des outils et des appareils tels que les imprimantes en trois dimensions afin de créer des objets variés. Ils font partie de ce mouvement appelé le Maker Movement qui a débuté ici aux États-Unis avant de se propager dans d'autres pays. Ce mouvement initie les enfants à l'assemblage et la fabrication de différents objets grâce à la technologie. Une tendance qui prévaut beaucoup au sein de la nouvelle génération, dit Wang Shenlin, un des pionniers du mouvement.
The old generation, it's like, oh, we more like we go to work, but the young generation, we see them, they start trying.
Il décrit la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération en ces termes. Dans le premier cas, on se lève le matin et on se rend au boulot. Dans le second, on voit des enfants, des jeunes, faisant beaucoup d'efforts pour réaliser ce qu'ils aiment. Et même dans un pays comme la Chine, où la tradition veut que l'on n'aille pas à contre-courant de la majorité, les jeunes entrepreneurs veulent changer les choses. Ils veulent innover. Tout ça par le biais de la technologie qu'ils ont pu découvrir très tôt dans leur vie.
Et voilà, point final à ce numéro de Carrefour. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Mille merci de votre fidélité, chers amis fidèles de la VOA. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Take care.